Sunwo Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Solidarité et partage, ces deux valeurs sont au cœur d'un geste citoyen, le don du sang. Pour être donneur, il faut remplir un certain nombre de conditions en termes de poids, d'état de santé, comme en termes d'âge. Un don anonyme et gratuit en France, contrairement à ce qui est pratiqué aux États-Unis, en Chine ou en Allemagne, où le donneur est rémunéré à chaque prélèvement. Alors donner son sang, pourquoi ? Parce qu'en dépit des efforts de la recherche, eh bien nous ne savons pas fabriquer du sang synthétique. Donner son sang pour qui ? 1 million de patients en France en ont besoin chaque année, accidentés, malades chroniques, greffés. Donner son sang, comment ? En s'adressant à un des sites de collecte de l'établissement français du sang, dans des hôpitaux, mais également lors de campagnes mobiles dans des entreprises, dans certains quartiers. Et dans Priorité Santé, aujourd'hui, nous aborderons la question de l'accès aux produits sanguins et de la sécurité transfusionnelle. Si vous avez une question sur le don du sang, si vous souhaitez témoigner au sujet de la collecte sanguine dans votre pays, est-ce que c'est accessible ? Appelez-nous 33 84 22 75 75. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous laisser votre message sur la page Facebook de l'émission. Don du sang, mode d'emploi surtout, indispensable don du sang. Avec nous en studio en cette journée mondiale des donneurs de sang, docteur Sylvie Grosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice médicale à l'établissement français du sang. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Sénégal le professeur Saliou Diop, hématologue, directeur du Centre national de transfusion sanguine de Dakar. En fin d'émission, on va faire le point sur la 5e édition du marathon Je cours pour sauver une vie d'enfant malade. Ça va se passer demain, le 15 juin, en Côte d'Ivoire. Nous retrouverons le professeur Roumanatou Bankole Sani, chef du service de chirurgie pédiatrique au CHU de Trècheville.
Priorité santé sur RFI.
Alors, il y a 10 jours tout juste, l'établissement français du sang a lancé un appel à la mobilisation générale en alertant sur le bas niveau des réserves de sang. Comment expliquer, docteur Sylvie Grosse, qu'à certains moments, qu'à certaines périodes, eh bien, on se retrouve confronté, ici en France, à ce type de situation qui peut mettre en péril la continuité de l'approvisionnement ?
Tout simplement parce qu'on a des périodes à risque qui sont le mois de mai avec le nombre de jours fériés et de ponts qui font que les personnes bougent et qu'on a moins de donneurs qui se présentent sur nos collectes. On a exactement le même phénomène qui se produit en général au mois d'août et à la période de Noël.
Ça veut dire moins de collectes et aussi plus d'accidents qui peuvent entraîner des hémorragies, ou ça c'est une fausse croyance ?
Non, les collectes sont toujours au même niveau, c'est la fréquentation des collectes qui baisse à ces périodes-là. Et malheureusement, ou de toute façon c'est un fait, les malades sont toujours hospitalisés et il n'y a pas de baisse au niveau des besoins. Les malades ont toujours besoin, quel que soit le mois de l'année, de produits sanguins.
Alors cette alerte, cet avertissement, c'était il y a 10 jours, un appel lancé. Est-ce qu'il a été entendu, docteur Sylvie Grosse ? Est-ce que les réserves sont à présent à un niveau plus satisfaisant ?
Elle commence tout juste à remonter, mais on n'est pas encore dans des zones, de confort afin d'atteindre la période estivale. Donc il faut continuer à se mobiliser pendant tout le mois de juin et de début juillet pour remonter ce stock et remonter ces réserves de sang partout en France.
Est-ce qu'aujourd'hui en France, mais aussi peut-être dans le monde, la demande en produits sanguins augmente ?
Non, la demande est stable. La demande en produits sanguins labiles est stable. La demande, par contre, pour du plasma afin de fabriquer des médicaments, elle augmente dans le monde.
Justement,
pour les produits sanguins, c'est stable.
Pour bien expliquer aux auditeurs, lorsqu'on parle de don du sang, on parle de produits sanguins, différents produits. Pour faire bien comprendre aux gens, c'est quoi ces produits ? C'est quoi les usages de ces produits ?
Alors, de façon très très globale, on a des concentrés de globules rouges qui servent à traiter les anémies globalement, des concentrés de plaquettes pour soigner les hémorragies, et puis le plasma qui sert à soigner les accidents hémorragiques. Mais aussi avec ce plasma, on peut fabriquer des médicaments dérivés du plasma, comme l'albumine, les immunoglobulines, les concentrés de facteurs de coagulation. Donc ces deux produits, les produits sanguins classiques et les médicaments dérivés du plasma, sont tous les deux très très utilisés.
Et quand on va donner son sang, d'emblée la collecte sait vers quel produit va être affecté ce sang, parce que la durée du don peut différer en fonction du type de produit sanguin collecté.
Oui, alors quand on donne son sang, une poche de sang classique, on donne du sang total. Et ensuite, nous, à l'EFS, on va séparer sur nos plateaux de préparation les trois constituants. Les globules rouges d'un côté, les plaquettes de l'autre et le surnageant, c'est le plasma.
On parle de don, ça veut dire gratuit. Un don, c'est essentiellement gratuit. Pourquoi ce principe? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on va réussir à tenir dans la durée? On dit que notre monde est de plus en plus marchand. Docteur Sylvie Gross, le sang, c'est à part.
Le sang est à part et nous, on vit sur cette notion de la non-marchandisation du sang et des éléments du corps humain depuis longtemps, puisque c'est la loi de 1952 qui a introduit le concept. Et la plupart des pays européens développent ce concept-là. Et le don anonyme, non rémunéré, volontaire, gagne du terrain partout dans le monde. On a des pays qui étaient auparavant sur du don rémunéré qui basculent progressivement vers du don non rémunéré, anonyme et volontaire.
Alors, un don sous condition, notamment en termes de fréquence, ça diffère pour les hommes et pour les femmes, docteur Gross.
Oui, parce que la masse sanguine chez un homme est plus importante que chez une femme. Donc, un homme peut donner jusqu'à 6 fois par an pour du sang total, alors qu'une femme, ça n'est que 4 fois par an.
Et des différences aussi, des conditions posées en termes d'âge et en termes de poids.
Oui, parce qu'il faut pouvoir donner une poche qui sera utilisée chez un patient. Il faut qu'elle fasse, le don fasse 450 millilitres. Donc pour cela, il faut peser un poids minimum qui est de 50 kilos.
Alors, on va bien sûr parler des besoins associés à différentes situations, à différentes maladies, pathologies, mais tout de suite, ce reportage. En France, don du sang au sein de structures médicales, bien sûr. Don du sang lors de campagnes mobiles aussi, comme la semaine dernière au centre de Paris, dans le quartier des Halles, où s'est rendue Héloïse Bajou, avec pour motiver les passants, un animateur, il s'appelle André.
Ce qui revient souvent, c'est la peur de la petite piqûre. Là, on en discute. On arrive à donner des réponses qui les rassurent.
Et c'est quoi vos trucs pour rassurer les gens?
C'est le dialogue, c'est le sourire, c'est de montrer que il n'y a aucune obligation. C'est une prise de conscience. On va avoir beaucoup plus besoin de transfusion. C'est inévitable. Pendant une opération chirurgicale, on soigne aussi des cancers où il y a besoin de transfusion. Et moi, je pense que quand je réponds ça, on le voit dans le dialogue, même s'il ne dure que 3-4 minutes, qu'il y a une découverte, une prise de conscience. Oui, mais c'est, finalement, c'est quand même vachement important, parce qu'un jour, ça pourrait m'arriver.
Allez. Nom, prénom, date de naissance.
Je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans. Ce qui m'a motivée pour mon premier don du sang, c'est je sais que dans mon lycée, il y en a qui passaient chaque année. J'avais pas encore l'âge pour, et je me suis dit, dès que j'ai l'âge, obligé, j'en fais au moins un. Mon premier don du sang, j'ai rien ressenti. J'ai pas eu de fatigue, pas eu de difficulté, rien. Et puis, je me dis, à leur place, j'aimerais bien, si j'ai un jour un accident ou une maladie quelconque, avoir du sang à disposition.
Il y a une tradition dans votre famille, dans votre entourage, de don de sang ou pas?
Je sais que mon père en a fait un quand il était plus jeune. Et après, il a arrêté parce qu'il était diabétique, mais il aurait bien voulu continuer. Mon frère, je sais qu'il va vouloir le faire quand il aura l'âge.
Et le fait que ce soit un dispositif mobile, que ce soit pas à l'hôpital, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas?
C'est déjà plus accessible, c'est moins stressant. Parce que le fait d'aller dans un hôpital, on se dit on n'est pas malade, c'est plus accessible quand c'est mobile.
Nous accueillons à peu près une cinquantaine de personnes par jour.
Docteur Ben Omar, porte-parole de l'établissement français du sang et responsable de la collecte en Île-de-France.
Mais l'objectif de cette action-là est d'accueillir jusqu'à 120 personnes jour afin d'en prélever une centaine. Ce qui fait que la raison pour laquelle nous venons, c'est un test que nous faisons sur ce site dit mobile. Et en fonction de la fréquentation, si c'est un point qui est bien fréquenté, nous ferons tout pour le faire perdurer.
Au total, quelle part des besoins en produits sanguins est-ce que cela permet de couvrir?
Alors, les besoins de ce pays sont aux alentours de 10 000 dons jour. Nous ne les atteignons pas. Mais tous les sites fixes de France et de Navarre sont mieux fréquentés lorsque ce site-là n'est pas à l'intérieur de l'hôpital. L'explication que l'on a, c'est que effectivement, nous ne prélevons pas des malades, nous prélevons des gens en bonne santé. Et ces gens en bonne santé, normalement, n'ont rien à faire à l'hôpital. Quels sont les risques ? Ils sont proches de zéro. Il n'y a pas une activité au monde qui n'est pas de risque, mais celle du don de sang, vraiment, elle est dénuée de risque.
Collecte mobile de sang, hein, campagne mobile, reportage signé Héloïse Bajou dans le centre de Paris. Docteur Sylvie Gross, lorsque l'on cherche un lieu de collecte en France, comment s'y prendre ?
Alors c'est très simple, on a maintenant une nouvelle application sur les smartphones, une appli mobile, comme on dit maintenant, qu'il suffit de télécharger, ça nous géolocalise, et puis on a tout autour les collectes mobiles en bus ou dans les salles des fêtes, etc., et les sites fixes.
Et puis sinon, on peut demander à son médecin, j'imagine, auprès d'un hôpital, ils sauront forcément où vous adresser pour donner son sang.
Oui, et puis il y a le site dondesang.santé.fr, etc., qui est très 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 utile et très pratique à utiliser.
Alors en France, après avoir donné son sang, il y a une collation, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Par contre, c'est pas partout le cas, et on a une question Facebook à ce sujet qui vient du Tchad, c'est Ali qui la pose. Après avoir donné du sang, quel aliment riche en vitamines doit-on manger ? Est-ce que c'est riche en vitamines ou c'est quoi exactement cette collation ?
En fait, il faut simplement se réhydrater, reprendre un petit peu de sucre et d'énergie. Et ensuite, dans les jours qui suivent le don de sang, si on a donné du sang total, il faut manger des aliments riches en fer, afin de ne pas être carencé en fer. Les aliments riches en fer, on les connaît tous. Alors, c'est pas seulement les épinards de Popeye, c'est essentiellement de la viande rouge, et puis du chocolat, ça tout le monde aime.
Il y a des lentilles aussi, qui peuvent être riches en fer,
oui.
Pour les gens qui mangent pas forcément de viande. Alors, quand on parle de don du sang, évidemment, on se pose la question de la sécurité des produits sang. Avec des risques qui sont bien connus, notamment les risques infectieux. Docteur Sylvie Gross, qu'est-ce qu'on peut dire justement pour rassurer au sujet, par exemple, des risques infectieux ?
Alors, on maîtrise ces risques infectieux grâce à un entretien qu'on fait avec le donneur juste avant le don, afin de voir avec lui s'il a eu des comportements à risque ou des infections récentes qui le contre-indiqueraient au don pendant une certaine période. Ça, c'est la première maille du filet qui permet effectivement de garantir une certaine sécurité. Et ensuite, c'est complété par toute une batterie de tests, puisque sur chaque don, on fait plein de tests à la recherche des virus. Alors les virus les plus importants qu'on peut citer, c'est le virus du sida, bien évidemment, l'hépatite B, l'hépatite C, mais aussi lorsqu'on va voyager dans des zones où il y a du palu, après une contre-indication de 4 mois au retour de zone, on fait un test palu également.
Alors certains médicaments aussi peuvent conduire à une exclusion du don du sang.
Oui, alors une exclusion souvent temporaire, hein, le temps que le médicament soit éliminé de l'organisme. Mais effectivement, on a toute une liste de médicaments qui contre-indiquent au don. La plupart sont des et puis il y a les médicaments qui sont donnés pour une cause qui elle-même contre-indique au don. Le but étant de préserver au maximum la santé des donneurs, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore en France certaines populations qui sont exclues du don du sang, docteur Gross ?
Alors, exclues du don du sang, le plus souvent, ce sont des contre-indications temporaires, hein. Mais il reste aussi des personnes qui ne peuvent pas donner pour principe de sécurité. Ce sont les anciennes personnes transfusées ou les personnes qui ont vécu dans les îles Britanniques à une certaine période.
Très bien, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Auditeur en ligne du Burkina, d'Ouagadougou, c'est Siriki. Bonjour Siriki.
Oui, bonjour docteur.
Le docteur Sylvie Gross est à votre écoute, allez-y.
Ok, j'ai 25 ans ici à Ouagadougou.
Oui.
J'ai commencé à faire le don depuis 2015. Mais en 2018, lors du dernier don, je n'ai pas fait le don de Ross. L'infirmière en service me disait que je n'ai pas une grosse veine. Et c'est ça qui a amené à ce que le poste ne soit pas plein. Donc, je voulais savoir, que dois-je faire pour continuer à donner ?
Alors, réponse à votre question, Siriki, docteur Sylvie Gross. Siriki qui dit, il a arrêté de donner son sang en 2018 parce qu'il a eu un problème avec ses veines. L'infirmier lui a dit que c'était, s'il n'arrivait pas justement à remplir la poche, un problème de veine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'est vrai que certaines personnes ont des veines assez fines, mais on arrive toujours à trouver une veine un petit peu plus grosse qui permet de prélever. Donc c'est une question d'habitude, et c'est vrai que les personnels infirmiers les plus entraînés, en règle générale, arrivent toujours à trouver un accès veineux. Donc il faut recommencer et y retourner et essayer à nouveau. C'est le conseil que je pourrais vous donner.
Siriki, persévérez et continuez justement avec cette générosité en donnant votre sang. On vous souhaite une excellente journée à Ouagadougou. On part tout de suite pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, où l'on retrouve Oumar. Bonjour Oumar.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Oui, moi je m'appelle Oumar, j'ai 43 ans. Mmh. Ça fait depuis 10 ans que je donne du sang. Bon, c'est suite au décès de ma mère. Donc, en fait, quand elle était malade, on avait du mal à trouver du sang. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller faire du don du sang. Mais le constat est que, bon, en fait, on fait des entretiens et juste après et le prélèvement, les analyses sont faites. Bon, en fait, moi, j'aimerais dire que est-ce qu'on peut, je m'adresse, mais bon, en fait, peut-être que ce sera une suggestion. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des analyses avant que le sang ne soit prélevé pour ne pas faire peut-être du gaspillage, pour que bon, juste après les analyses et puis le sang prélevé, et il se trouve que si le sang il est infecté ou bien soit il est malade, la personne malade, la poche est détruite.
Mais vous voudriez faire des analyses combien de temps avant?
Bon, en fait, moi, régulièrement, je fais des analyses. Bon, en fait, est-ce que d'autres personnes le font? Mais comme moi, bon, en fait, je ne sais pas. Puisque, bon, moi, particulièrement, chaque 3 ans et chaque 3 mois, je fais des analyses sanguines pour voir au niveau des trucs comme on appelle du VIH ou bien soit au niveau de l'hépatite.
Oui, mais quand votre sang est prélevé en Côte d'Ivoire, Oumar, oui. Il y a des analyses qui sont faites sur ce sang. Ce sang, si vous êtes porteur d'une infection, il ne va pas être transfusé à d'autres personnes.
Oui, effectivement. Bon, en fait, moi, je le dis pourquoi? Parce que au risque de ne pas détruire peut-être le sang, pourquoi? Parce que bon, c'était une suggestion. Parce que bon, je me dis que on pourrait faire les analyses bien avant de faire le prélèvement.
Oui, mais Oumar, moi je vais vous répondre pas du tout une réponse de médecin parce que je suis pas médecin, mais une réponse de bon sens. Si vous faites les analyses bien avant, qu'est-ce qui nous dit que entre temps vous n'allez pas être exposé à un autre risque infectieux? Donc un mois avant vous avez fait des analyses, tout va bien, et puis le jour où vous allez donner votre sang, eh bien vous êtes porteur d'un virus. Comment est-ce qu'on va le savoir?
Oui, effectivement, je me dis peut-être que le même jour, en partant faire le don de sang, on peut faire. On peut faire l'analyse.
Mais c'est ce qui est fait, c'est fait le même jour. Mais par contre, bien sûr, pour analyser votre sang, il va falloir un petit peu de temps. Donc, on profite du fait que vous soyez là pour, à la fois, on va analyser votre sang et on prélève votre sang. Sinon, ça fait 2 déplacements. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Ça utilise 2 infirmiers et ça mobilise du personnel à l'hôpital.
Oui, effectivement. Bon, maintenant, l'autre préoccupation, c'était au niveau des entretiens. Mmh. Au niveau des entretiens, bon, souvent les entretiens, c'est un peu rapide. Et puis, bon, en fait, je me dis que, bon, en fait, on pourrait peut-être prendre un peu de temps pour voir. Parce que souvent, quand on y arrive, on veut faire le don du sang, on est un peu pressé. Mmh. Et bon, en fait, je me dis que, bon, en fait, le médecin pourrait prendre du temps pour écouter le truc, celui qui arrive.
Le donneur, donc vous trouvez que ça se passe un petit peu trop vite. Docteur Sylvie Gross, vous vouliez réagir bien sûr à ce que vient de nous dire Oumar.
Oui, je voulais réagir parce que venir faire des tests régulièrement, ça quelque part, réaliser des tests avant de donner son sang, c'est pourquoi réalise-t-on le test? C'est ça l'important, c'est peut-être y a-t-il un risque ou une perception d'un comportement à risque. Et à ce moment-là, bah, il ne faut pas venir donner son sang, puisque en fonction du moment où on est contaminé et au moment où le test va être positif, il y a une phase qu'on appelle la fenêtre négative, silencieuse, qui est dangereuse. Donc on pourrait éventuellement contaminer un receveur si on est dans cette phase de fenêtre silencieuse.
Ça veut dire qu'il y a une responsabilité au niveau de son propre comportement.
Exactement.
Une prise de conscience.
Exactement. Donc il faut prendre conscience des facteurs de risque que l'on a ou pas, et en fonction de ça, se présenter pour le don de sang. et pas l'inverse.
Parce que vous, Oumar, vous dites cet entretien, il est bâclé, mais vous, vous avez bien conscience des comportements qu'il faut éviter quand on veut être donneur de sang.
Effectivement. Ben, maintenant, j'ai une autre question. Je voulais savoir, est-ce que il y a des risques de maladie au fil du temps qu'on fait le don du sang?
Alors là, risque de contracter une infection en donnant son sang avec le matériel transfusionnel?
Alors là, non, il n'y a aucun risque puisque tout le matériel utilisé est stérilisé et à usage unique. Donc là, on peut rassurer, zéro risque.
Voilà Oumar, très bonne journée à vous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Merci beaucoup pour toutes ces questions. On part pour la Guinée, pour Conakry, où l'on retrouve Roger. Bonjour Roger.
Bonjour madame, comment allez-vous?
Très bien, on vous écoute, à vous.
En fait, je m'appelle Traoré Roger, je suis en Guinée-Conakry. Mm-hmm. Depuis ma naissance, j'ai jamais fait de don de sang, par peur et par hésitation. En fait, je me dis quand je fais un don de sang, le taux d'hémoglobine dans mon sang, ça va diminuer et ça va sûrement me causer des anémies. Alors, j'ai peur aussi des seringues. Et aussi dans les centres de diffusion ici, quand on finit la transfusion, on vous donne juste du sandwich et une boîte de Vinto. On vous dit que, OK, ça va revenir après. Est-ce que ça peut compenser qu'on a perdu dans le don de sang?
Je vais tout de suite donner la parole au docteur Sylvie Gross, mais moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que si vous êtes rassuré, vous irez donner votre sang?
Oui, si je suis rassuré, je vais donner mon sang parce que je suis déjà du groupe O+, et je suis donneur universel.
Alors justement, je donne maintenant la parole au docteur Sylvie Gross et je pense qu'elle va trouver les arguments pour vous convaincre.
Alors, monsieur, c'est vraiment bien. En plus, vous êtes O positif, donneur universel. Donc, vous pouvez donner votre sang régulièrement en respectant l'intervalle entre deux dons qui est de 2 mois. C'est vrai que le sang que vous allez donner, ça n'est que 450 millilitres. Vous avez probablement une masse sanguine aux alentours de 5 à 6 litres. Donc, c'est rien du tout par rapport à votre masse sanguine à vous.
C'est vrai que se faire une idée, hein, si on visualise, ça fait 2 verres de boisson normaux, 5-6 litres, 6 bouteilles. Donc, on voit que il y a une grande marge entre les deux.
Ouais. Il y a une grande marge. Et c'est vrai que les 450 millilitres que vous allez donner vont vous faire tout à fait diminuer le taux d'hémoglobine, mais très légèrement, de 1 gramme. 1 gramme alors qu'on en a 13 ou 14 grammes. Et en plus, ça se régénère dans les semaines qui suivent. Donc à partir de la semaine et des 15 jours qui suivent, le taux d'hémoglobine redevient à la normale. Donc vraiment, vous pouvez y aller en toute sécurité. Vous n'aurez pas de soucis et vous n'aurez pas d'anémie si vous respectez cet intervalle entre deux dons. Il faut savoir également qu'à chaque don, on mesure le taux d'hémoglobine. Et que donc, si le taux d'hémoglobine est insuffisant, on prévient le donneur et on lui dit « attendez quelques mois avant de revenir ».
Voilà Roger, est-ce que vous êtes convaincu?
Oui, je suis convaincu. En plus, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut prendre après le don? Parce que ici, souvent, c'est juste des sandwichs et une boîte de coca qu'on dit de prendre ou une boîte de Vinto. Est-ce que ça peut compenser cela?
Tout à l'heure, on disait, pour retrouver du fer, les aliments où il y a du fer, les lentilles, les légumineuses et puis les viandes rouges.
Voilà. Mais de toute façon, chez quelqu'un qui n'est pas anémié et qui a juste donné une poche de sang, un régime alimentaire standard suffit largement.
Voilà. Si vous mangez bien, normalement, tout devrait se reprendre forme tout à fait rapidement dans les semaines qui suivent. On vous souhaite une très bonne journée à Conakry, Roger. On retourne au Burkina, cette fois dans la ville de Dédougou, je l'ai bien dit, où l'on retrouve Youssouf. Bonjour Youssouf.
Bonjour madame, bonjour à Priorité Santé.
Bonjour à vous, on vous écoute, allez-y.
Je suis un donneur universel de sang. Au passage, je précise que je suis de O positif. Ma copine aussi est de O positif. Maintenant, actuellement, avec la recrudescence du paludisme, je lui ai demandé à ce qu'elle se joigne à moi afin qu'on donne nos sangs régulièrement. Mais étonnement fut notre surprise lorsque nous sommes arrivés pour donner notre sang. On a dit que elle pouvait pas donner parce que elle a fait des tatouages sur son corps. Et elle a un petit tatouage au niveau du cou, ce qui l'empêche de pouvoir donner son sang. Alors j'avais un certain nombre de préoccupations à propos. Est-ce que cela voudrait dire que toute personne qui a fait un tatouage d'office, son sang est impropre, ou bien il y a des risques d'infection? C'est la deuxième question. Et la troisième et la dernière question, quel peut être l'impact des tatouages dans le sang humain?
Alors, ces questions très précises et très intéressantes, docteur Sylvie Gross. C'est vrai que en France aussi, quand il y a eu un tatouage dans les 4 derniers mois, eh bien, on n'est pas éligible au don du sang. Là, dans le cas que nous pose Youssouf, on ne sait pas. Youssouf, votre compagne, elle a été tatouée il y a combien de temps ?
5 ans environ.
Ça fait très longtemps. Donc d'ici là, si elle avait eu une infection, elle aurait eu des, elle a passé des analyses sanguines depuis. Elle a fait par exemple le test du VIH. Elle sait qu'elle est séronégative.
Oui, nous le faisons presque chaque 6 mois. Nous faisons tous les examens nécessaires ensemble.
Bon, bah c'est quand même le point principal, c'est de savoir déjà qu'elle n'a pas contracté une infection en faisant ses tatouages. Et pour le reste, je donne bien sûr la parole à la professionnelle, docteur Sylvie Gross, à vous.
Tout à fait. Donc les tatouages, par mesure de précaution, effectivement, il y a une contre-indication, mais une contre-indication temporaire, qui n'est jamais définitive. C'est tout simplement parce que les officines qui réalisent ces tatouages ne sont pas toutes, je dirais, surveillées au niveau sanitaire, et on n'a pas une garantie à 100% qu'il n'y ait pas des pratiques de tatouage avec du matériel non stérilisé ou échangé. C'est juste pour ça. Donc, au bout de 4 mois, le risque étant jugé comme éliminé, on peut redonner son sang.
Et de toute façon, au moment du don du sang, il va y avoir des analyses sanguines qui
toujours,
vont être effectuées.
Toujours,
donc, si
toujours.
Ce sang avait un problème, il sera écarté
il
de
sera
toute
écarté
façon.
Il sera écarté de toute façon.
Voilà pour la réponse à vos questions, Youssouf. Ça va ? Vous avez été rassuré sur ces réponses ?
Oui, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui pourrait être fait peut-être, c'est de repartir faire des examens médicaux sur le VIH-Sida et de présenter ses résultats au niveau du laboratoire national afin de permettre le prélèvement, le don de sang.
Il y aurait certainement d'autres virus qui seront recherchés, peut-être transmission d'hépatite également.
Hépatite B, hépatite C, mais surtout le fait d'indiquer qu'elle a été tatouée il y a 5 ans permettra de réaliser cet entretien pré-don et ce don. Très probablement.
Voilà, donc bien dire que c'est il y a très longtemps et que depuis, il y a beaucoup d'examens qui ont été effectués par votre compagne. Youssouf, très bonne journée au Burkina. On part en République démocratique du Congo où l'on retrouve Peter. Bonjour Peter, à Kisangani.
Oui, bonjour et bonjour à Dr Sylvie.
On est à votre écoute, allez-y.
En fait, moi j'ai donné mon sang à l'âge de 17 ans Et les gens me disaient que je trouvais un risque. Je demande au docteur s'il y a un risque par rapport à celui qui donne ça pendant qu'il est encore mineur.
Ben, donner son sang quand on est mineur, docteur Gross, c'est quelque chose qui est interdit en France, hein, ce n'est pas permis. Maintenant, en République démocratique du Congo, quand on a l'âge de 17 ans, je ne sais pas ce que vous pouvez répondre à ce sujet, c'est peut-être propre à chaque pays.
Alors oui, chaque pays a sa propre législation. Il y a des pays, effectivement, on peut donner dès 16 ou 17 ans, comme aux États-Unis. Donc,
Et puis là, ce que vous décrivez, Peter, c'était une situation d'urgence. Donc, il y avait eu un besoin absolu. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, qu'on ait 17 ans et demi ou 18 ans, peut-être que ça compte beaucoup moins.
Il n'y a pas une grosse différence, effectivement. Et puis, s'il a donné juste une seule fois, ma foi, vous avez quel âge maintenant, Peter ?
Peter,
j'ai
23 ans, et vous n'avez pas eu de problème de santé après. Vous n'avez pas eu de problème de santé après ce don du sang.
Non, je n'ai pas eu de
problème. Vous pouvez redonner sans aucun problème.
Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée à Kisangani, et on termine avec les auditeurs au téléphone. On retrouve Souleymane qui est au Burkina. 3e appel du Burkina ce matin. On est très écoutés, ça fait plaisir. À Koudougou. Bonjour Souleymane.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Alors, bon, moi, je suis allé pour donner mon sang. Je n'ai même pas rempli la poche que bon, j'ai perdu connaissance. Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas un donneur, mais j'ai un problème particulier.
Souleymane, qui a fait un malaise en donnant son sang, ce sont des choses qui arrivent, docteur Gross.
Oui, c'est le petit désagrément qui est le plus fréquent au cours d'un don de sang, c'est que les gens perdent connaissance, ce qu'on appelle le malaise vagal. Ça n'est pas grave du tout, il faut simplement mettre les jambes un petit peu surélevées et les personnes retrouvent connaissance très rapidement. C'est souvent la peur de l'aiguille qui génère ça, mais effectivement, plus on est dans un site qui est confortable, où on rassure les donneurs et moins ce genre d'événement se reproduit. Donc ce monsieur pourra certainement redonner son sang en faisant bien attention effectivement à s'hydrater avant et à surtout ne pas venir à jeun.
Et justement quand on fait ce genre de malaise, les raisons c'est quoi justement qu'on arrive un petit peu avec le ventre vide ou ça peut être simplement une tension psychologique, une certaine appréhension?
C'est les deux. Si on est à jeun et si en plus on est stressé, effectivement on a plus de chances de faire un petit malaise.
Alors Souleymane, si vous êtes rassuré, si vous avez confiance dans le système qui va prélever votre sang, eh bien allez-y et normalement tout, on espère, tout devrait bien se passer. D'ailleurs si vous y allez, n'hésitez pas, renvoyez-nous un petit message pour nous dire comment ça s'est passé.
Ok, pas de souci.
Très bonne journée Souleymane au Burkina. À chaque don, hein, des examens biologiques sont pratiqués. Docteur Sylvie Gros, s'il y a un résultat qui pose problème, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, on avertit le donneur immédiatement, hein, on lui envoie un courrier, ou si c'est quelque chose d'urgent, on l'appelle pour lui dire d'aller voir son médecin traitant et de refaire confirmer telle ou telle analyse. Et bien sûr, la poche n'est pas utilisée.
Alors, mobilisation pour le don du sang en ce moment en France. Dans certaines régions du monde, hein, il faut le reconnaître, il y a de véritables problèmes d'accès et de sécurisation, surtout d'accès. On l'a entendu tout à l'heure en RDC, un jeune homme qui est obligé de donner son sang alors qu'il est mineur parce que quelqu'un dans sa famille est dans une urgence avec certainement un problème d'hémorragie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste assez inégalitaire sur la planète.
Oui, et c'est vrai qu'on a la grande chance dans pas mal de pays d'avoir mis en place des systèmes transfusionnels qui permettent en permanence de faire des appels aux dons et des collectes régulières et de maintenir des stocks à un niveau suffisant pour que tout le monde puisse en bénéficier et que tous les malades puissent être soignés. Mais il y a des systèmes transfusionnels dans certains pays qui n'ont pas ce niveau d'activité et qui permettent pas de soigner tous les patients qui en ont besoin. D'où ces appels urgents à la famille ou aux amis dans certains pays.
Et des chiffres très révélateurs, hein, données de l'Organisation mondiale de la santé. Inégalité en matière de dons du sang, puisque la moitié des dons sont collectés dans des pays où vit moins de 20% de la population. Donc on voit ce grand écart entre les dons et les besoins effectifs, les besoins réels de la population. On va partir tout de suite pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Saliou Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue directeur du Centre national de transfusion sanguine de Dakar. Professeur Diop, est-ce qu'on peut décrire le profil du donneur de sang au Sénégal?
Alors, au Sénégal, sur une population de à peu près 15 millions d'habitants, nous avons eu à collecter 98 000 dons de sang en 2018. Alors ça représente en termes de taux, pour chaque 1000 habitants, 6,4 dons. Alors, les donneurs de sang, c'est surtout des hommes, hein, 75%. Il y a une différence avec en France, où je sais que c'est les femmes, je pense, qui donnent plus de sang. Ici, c'est 75% qui sont des hommes. La plupart du temps, ce sont des jeunes, hein, entre 20-30 ans. Ils sont volontiers étudiants ou bien des jeunes travailleurs. Et par rapport au type de don, c'est surtout un don de sang volontaire et bénévole parce que à Dakar, tous les donneurs de sang sont de type volontaire et bénévole. Dakar, ça représente la moitié de ce que nous prélevons comme don de sang pour tous les pays. Alors l'autre moitié qui est réalisée dans les banques de sang dans les régions, on y note quand même qu'il y a une persistance d'à peu près 15% qui sont des dons qu'on appelle des dons de remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les familles des patients qui doivent se mobiliser pour aller trouver des donneurs. Mais ça représente 15%. Des dons de sang dans les régions, mais dans la capitale, par contre, le don de sang est entièrement volontaire et bénévole.
Et avant de vous retrouver, professeur Saliou Diop, là je me tourne vers le docteur Sylvie Gros, c'est différent en France, hein, parce qu'en France, le don est anonyme pour un receveur tout aussi anonyme.
Tout à fait. Mais il faut bien voir que avant les années 1950, on était aussi sur du don de remplacement, comme monsieur le décrit, et que les pays comme le Sénégal n'arrêtent de progresser vers du don bénévole et anonyme. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose.
Professeur Saliou Diop, alors bien sûr, on imagine des conditions pour donner son sang et le fameux entretien avant justement l'opération de prise de sang.
Ah oui, c'est extrêmement important. Pour nous, l'entretien nous permet vraiment d'exclure tous les donneurs qui ont des comportements à risque de contracter certaines infections. Il nous permet aussi de nous assurer quand même qu'il n'y a aucun risque pour que le receveur puisse être prélevé 450 ml de sang. Il est clair que pour nous, la sécurité du donneur, c'est un élément essentiel de notre dispositif. Il y a quelques petites différences sur qui peut donner du sang au Sénégal et en France, parce qu'ici, les tranches d'âge autorisées, c'est entre 18 et 60 ans. Alors, bien entendu, il faut avoir plus de 50 kilos, mais là où il y a le plus de différence, sur le rythme des dons. Au Sénégal et dans la plupart d'ailleurs des pays en Afrique, on autorise les dons trois fois pour les femmes dans l'année et quatre fois pour les hommes dans l'année. Donc on ne peut pas faire plus de dons à l'intérieur de trois mois chez les hommes ou de quatre mois chez les femmes.
C'est légèrement inférieur à ce qui se fait en France.
Tout à fait, c'est des principes de précaution que nous prenons parce que voilà.
Il y a aussi des questions en termes d'apport nutritionnel, etc. C'est peut-être pour ces raisons
absolument,
ou c'est pour quelles d'autres raisons? Pour les raisons de...
Voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, professeur Saliou Diop, le Sénégal se retrouve malgré tous ses efforts, on le comprend bien avec la moitié des dons sur Dakar et le reste dans les autres régions du Sénégal, est-ce qu'il y a malgré tout des pénuries de sang?
Ah oui, tout à fait. J'ai dit tantôt que le taux de don de sang, c'était de 6,4 dons pour 1000 habitants. Mais vous savez que l'OMS recommande au moins d'avoir 1%, donc 10 dons pour 1000 habitants.
Ça ne couvre pas les besoins.
Ça veut dire que nous avons quand même encore un gap à combler. Nous estimons que c'est à peu près 30% qu'il faut combler en termes de gap. Et surtout, ce gap, on le ressent dans des périodes à risque. Le docteur Gross parlait tout à l'heure des périodes de vacances chez vous. Chez nous, c'est surtout les périodes comme le Ramadan, comme aussi les vacances universitaires, parce que je vous disais tantôt que c'est surtout des étudiants, et pendant les vacances universitaires, effectivement, beaucoup d'étudiants partent dans le village, etc. Donc, c'est bien sûr, nous avons aussi des stratégies pour réduire ces périodes de tension, mais il est clair que ces périodes-là sont des périodes où on retrouve justement les conséquences de ce déficit-là.
Professeur Diop, on a une question qui vient du Bénin d'un auditeur qui s'appelle Fadino. Il dit pourquoi les poches de sang qui sont des dons sont-elles vendues dans certains hôpitaux? Apparemment, c'est le cas chez lui au Bénin. Depuis deux ans, à cause de cela, j'ai décidé de ne plus donner mon sang.
Mais c'est clair que le fait de vendre du sang est une très mauvaise publicité à l'appel aux dons volontaires. Au Sénégal, ceci n'est pas fait. Les produits sanguins sont gratuits pour les patients dans les services publics. Et c'est un long combat. Je pense qu'effectivement, il faut que l'ensemble de nos pays, nous essayons de changer cette pratique, de faire de telle sorte que la distribution des produits sanguins aux patients soit gratuite. Parce que pour moi, c'est quand même très difficile d'appeler les personnes au don et après... De vendre. Le problème, c'est qu'en France, certes, c'est vendu, mais c'est pris en charge par
absolument.
La sécurité sociale.
Absolument.
Donc, le patient, il ne voit pas.
Les assurés ne s'en rendent pas compte.
Absolument. Alors que dans la plupart des pays en Afrique, ben, je donne de l'argent, je reçois un ticket et une poche. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas un bon système.
Je vais vous faire réagir pour conclure, professeur Saliou Diop, à ce que nous dit toujours sur Facebook l'un de vos compatriotes, hein, c'est Ruffin qui a Ziguinchor au Sénégal. Il nous dit « C'est devenu une priorité chez moi depuis deux ans. Tous les trois mois, je vais à l'hôpital et j'encourage mon entourage. » Ah, c'est pas facile à dire. Hein. « J'encourage mon entourage à faire de même. » Ben ça, c'est un bel appel pour conclure.
Et tout à fait. Actuellement à Dakar, je suis dans mon bureau pour vous répondre, mais je suis au centre de transfusion et nous avons aujourd'hui plus de 500 personnes qui sont là, qui se bousculent pour effectivement célébrer cette journée, effectuer un don de sang. Pour nous, c'est vraiment un pic de communication par rapport au don de sang, mais c'est vrai que au Sénégal, le don de sang a doublé durant ces 10 dernières années et c'est le cas aussi dans la plupart de nos pays. Mais il faut quand même continuer davantage encore à sensibiliser.
Et tous ceux qui nous écoutent à Dakar, eh bien, rendez-vous dans ce centre de collecte où vous retrouverez donc toutes les personnes qui travaillent aux côtés du professeur Saliou Diop. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre national de transfusion sanguine de Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Docteur Sylvie Gross, on a bien perçu ce fossé malgré tout de la situation entre ce qui se passe dans certains pays du Sud et ce qui se passe en France. Il y a justement des collaborations, des coopérations qui sont mises en place pour essayer d'améliorer la situation.
Oui, à l'établissement français du sang, nous avons une action internationale et nous coopérons effectivement avec pas mal de pays d'Afrique et aussi également en Amérique du Sud pour justement favoriser les échanges de pratiques et aller vers les meilleurs systèmes possibles afin de développer ce don anonyme et gratuit dont tout le monde a besoin. Et on voit bien les besoins qui sont très très importants en Afrique.
Oui, d'autant plus qu'il y a des pathologies chroniques qui sont propres à certaines régions du monde. On pense bien sûr à la drépanocytose. Docteur Sylvie Gross, il y a donc ces maladies qui nécessitent du sang en particulier dans des régions où ce don du sang n'est pas encore tout à fait à la hauteur.
C'est ça. Ce sont des maladies pour lesquelles, des maladies chroniques en plus, où il faut des échanges érythrocytaires et des transfusions très régulières. Il faut avoir des systèmes transfusionnels très bien adaptés pour garantir une autosuffisance des produits sanguins dans ces régions.
Est-ce qu'en France aujourd'hui, on a des disparités interrégionales, c'est-à-dire des régions où on a davantage de donneurs et ça peut un petit peu compliquer la gestion de ces stocks, la gestion de ces flux sanguins?
Alors oui, on a des disparités régionales, bien sûr, mais on a la grande chance d'avoir un établissement français du sang qui est unique et national. Donc on a une gestion de stock national qui nous permet de répartir en fait les stocks d'une région qui en aurait un petit peu trop vers une région qui en a un petit peu moins. Et l'Île-de-France est très, est une des régions qui transfuse le plus.
Généreuse, on va dire.
Non.
En matière de
sang.
À l'inverse. Une disproportion entre le besoin et la demande.
En fait, d'apport de produits sanguins d'autres régions de France.
Alors comment justement on explique, parce que tout à l'heure on parlait des profils des donneurs, comment on explique qu'il y ait cette typologie aussi bien régionale que de genre, puisque contrairement à ce qui se passe au Sénégal, en France ce sont davantage les femmes qui donnent, c'est bien cela?
Oui, les femmes donnent un petit peu plus, alors ça dépend des périodes aussi de leur vie, puisque chez les jeunes, effectivement ce sont les femmes qui donnent un tout petit peu plus que les hommes, mais chez les personnes de plus de 40 ans c'est l'inverse. Mais au global, on a une proportion de femmes un tout petit peu plus supérieure à celle des hommes en France.
On voyait tout à l'heure avec le reportage dans la rue qu'il y a certains arguments, toujours quand on se transpose dans une situation de demande, de besoin, on se projette, là on comprend. Est-ce qu'il y a des arguments justement qu'on met en avant et qui permettent justement à ce message de passer, de faire mouche pour que les personnes aillent donner leur sang?
Je pense que le message le plus important, c'est vous pouvez faire un acte utile, un acte généreux et qui va servir. Voilà. Et vous pourriez aussi avoir besoin, vous, un jour, d'avoir de produits sanguins. Donc, faites cet acte généreux et citoyen.
Et ne pas oublier, docteur Sylvie Gross, message à faire passer, de signaler quand on est de retour d'un voyage dans certaines zones de la planète.
Tout à fait. Et vous verrez d'ailleurs sur la petite application qu'on a mise sur l'application mobile, qu'on peut simplement, en tapant le pays où on est allé séjourner, avoir la durée de la contre-indication en fonction de chaque pays et chaque agent pathogène éventuellement à risque.
Merci beaucoup, docteur Sylvie Gross, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice médicale à l'établissement français du sang.
Priorité santé sur RFI.
C'est un rendez-vous qui est donné demain en Côte d'Ivoire, 5e édition du marathon « Je cours pour sauver une vie d'enfant malade » derrière cette initiative. Professeur Roumanatou Bankole-Sani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef.
Madame.
Bonjour. Vous êtes chef du service de chirurgie pédiatrique au CHU de Trècheville.
Exactement.
Et c'est cette 5e édition. Comment est-ce que ça va se passer demain? Est-ce que tout est prêt, professeur Bankole-Sani? Tout est prêt pour le parcours?
Oui, tout est prêt pour le parcours. Tout est prêt. Tout est prêt pour le parcours. Tous ceux qui veulent courir peuvent venir. Il n'y a aucun problème.
Alors justement, 5e année, vous savez qui participe? Combien de participants attendez-vous demain?
Nous attendons environ 500 participants. les professionnels de santé, tout le monde, tous ceux qui veulent venir, tous ceux qui ont l'habitude de faire du sport, tous ceux qui veulent venir peuvent venir.
Quel est le message
de la population?
Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers cet événement?
Oui, à travers cet événement, nous avons essentiellement trois messages à faire passer. Le premier message, c'est d'informer la population, sensibiliser la population aux problèmes de santé des enfants qui ont besoin d'un traitement chirurgical. En tant qu'adultes, nous sommes tous responsables de la santé des enfants. Et la deuxième raison, c'est de faire connaître nos spécialités. La chirurgie pédiatrique est une spécialité qui s'occupe du traitement chirurgical des enfants de 0 à 15 ans qui ont soit des anomalies de naissance ou des anomalies acquises telles que les fractures, les accidents ou les infections et qui ont besoin d'être opérés. Vous savez, la santé des enfants, surtout la chirurgie, est une résolution de l'OMS actuellement de 2015 qui stipule que la chirurgie est une composante de la couverture maladie universelle. Donc, la troisième information, oui, que nous voulons faire passer,
oui,
à travers ce marathon, c'est de sensibiliser les parents donc sur des informations inexactes que les parents peuvent obtenir lorsque les enfants ont des anomalies de naissance, c'est-à-dire des malformations. Par exemple, les enfants qui ont une anomalie au niveau de la verge, on ne doit pas leur faire des circoncisions. Et on doit normalement les opérer avant l'âge de 1 an. La plupart des malformations de naissance peuvent être opérées à 1 an. Mais malheureusement, nous recevons ces enfants encore tardivement, à l'âge de 4 ans ou 5 ans, avec des problèmes psychologiques à cet âge-là.
Alors, au-delà de la campagne de sensibilisation, il y a des attentes très concrètes. Et ces attentes, notamment, eh bien, c'est d'acquérir, professeur Bancolé-Sani, c'est d'acquérir de nouveaux équipements pour votre centre de santé.
Oui, nous aimerons bien acquérir du matériel chirurgical à travers les dons que nous allons avoir pour une chirurgie qui est mini-invasive, une chirurgie sans cicatrices et sans douleur. Ainsi, l'enfant pourra retrouver rapidement son domicile et retrouver le chemin de l'école. Les enfants en bonne santé, vous savez, c'est le bonheur des parents, c'est le bonheur de l'entourage et de nous tous, et aussi du chirurgien pédiatre.
Et cette course, elle peut justement servir à collecter de l'argent pour ces causes, pour acquérir ce matériel indispensable pour mener à bien ces opérations chirurgicales.
Exactement, exactement.
Et vous avez aussi, exactement, un projet pour, d'opération gratuite sur une centaine,
oui,
d'enfants, c'est bien cela?
Exactement. Grâce aux dons, justement, nous allons faire des interventions sur une centaine d'enfants, ou même plus de 200, parce que nous avons déjà enregistré plus de 200 enfants qui ont besoin de la chirurgie de la hernie, une hernie inguinale. Une hernie inguinale, c'est-à-dire les gens sortent de l'abdomen de l'enfant. On le retrouve au niveau de la région inguinale vers le testicule.
Merci beaucoup, hein, professeur Bancolé-Sani, pour toutes ces précisions. Et bon courage et bonne chance, hein, pour votre course de demain. Je rappelle que vous êtes chef du service de chirurgie pédiatrique au CHU de Trècheville, en Côte d'Ivoire. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Lundi, nous allons revenir sur la crise des urgences en France. Urgence en grève, urgence en crise. Quelle solution? Quelle revendication? N'hésitez pas à nous appeler si vous avez une question. 33 1 84 22 75 75 ou laissez-nous votre message sur la page Facebook de la mission. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Écoutez.